nous ne voulions pas vieillir, mais j'appris que personne ne pouvait échapper à cette loi. Fidor, le coq du quartier, champion coureur de la rue, héros déguenillé de mon enfance, sorti d'une maison branlante, m'apprit que nos 12 ans étaient aussi fragiles que les 70 ans du père Richard. Ses parents des Acadiens étaient indigents. Nous savions que Fidor ne fréquentait pas l'école, le petit collège de briques où sont les pupitres vernis, le tableau noir, le maître et le cahier. Il fréquentait l'autre école, la brutale, l'indisciplinée, la bousculeuse, qui exige des devoirs autrement plus difficiles que la première. Il fréquentait la rue, y ramassant ce qu'il pouvait au fil des trottoirs. Parfois une idée saine, habillée en pauvresse, plus souvent des mensonges vêtus en petit prince. Il possédait par intuition la science des animaux, la science des plantes, la science des étoiles. Son livre de classe, dans lequel il lisait infiniment mieux que nous, les écoliers, c'était la nature. Il n'avait jamais tué un oiseau, mais pouvait le prendre dans sa main. Les plantes vénéneuses comme le bois d'enfer, les herbes à tisane comme l'herbe à dinde, l'herbe à éternuer comme le bouton d'argent lui étaient connues. Il disait que l'étoile de la mer enfermait des poissons, et celle du berger, des moutons. J'étais son ami parce que j'avais son âge et que je demeurais dans sa rue, mais rien ne nous liait particulièrement l'un à l'autre, jusqu'au matin où il est arrivé chez moi et m'a dit gravement « Va demander à ta mère la permission de sortir avec moi, je vais t'amener quelque part. » Au bout de 5 minutes, épaule contre épaule, nous courions dans le matin en direction des chutes, nous observant l'un l'autre à la dérobée. Il avait ses poches bourrées d'oseille. Il m'en a offert, et j'en ai mangé sans faire la grimace, car je connaissais cette plante. Il paraît que tu sais des histoires drôles, toi. Moi, avec des géants et des fées. Je ne savais que répondre. J'ai dit, oui, j'en sais, mais maman et Charles Bédard en savent beaucoup plus que moi. À la façon d'un enfant qui demande la charité en souriant comme s'il demandait son chemin, Fidor a dit, donne. J'ai deviné que son existence devait être triste à périr. J'avais un peu honte de n'être pas riche de quelques misères. Donne tes histoires, a-t-il répété. Je t'ai raconté si tu me dis les tiennes, lui ai-je répondu. Nous courions dans le matin épaule contre épaule. Il y a 3 semaines, la cigogne est venue chez nous porter une petite fille qui ne pleurait pas. Et je devins tout ému, comme la surface de l'eau quand il pleut. Ensuite, parce qu'elle ne pleurait pas, elle est repartie. Il a jeté 2 ou 3 coups d'œil rapides vers le firmament et il a dit « Elle n'était pas normale. Il va falloir que tu me racontes des histoires de fées, tu vois. » Et peut-être, a-t-il ajouté, « Je te dirai comment on attrape une étoile filante. » La vie de Fidor devait ressembler à une de ces rivières ordinaires qui soudain fait un cercle immense dans les tumultes pour cacher un lac. Une rivière dont les bords, tantôt remplis de joncs, cachent des nids d'outardes et tantôt nus et larges comme une piste d'envol, rejoignent l'horizon. D'étranges et rares pensées devaient rôder sous ses cheveux de foin mûr. Soudain, de la prairie a bondi un petit poney roux avec la lune blanche dans le front. Naseau bien ouvert, piaffant de gentils coups de sabot, saluant comme s'il eût été dans l'arène, et s'est approché. Quel magicien était dans Fidor. Regarde-le, me dit-il doucement sans surprise. Le petit cheval, poitrail bombé, a couru vers nous. Fidor a plongé ses doigts dans le crin épais, lui a gratté la gorge avec ses ongles. Il a sauté dans l'eau. L'animal, sans hésiter, lui a donné ses pattes une par une. Mets ta tête sur mon épaule. Et le petit cheval a appuyé sa tête sur l'épaule de mon ami. Revenu sur la clôture, Fidor a dit en collant les yeux sur la bête. Depuis 2 ans que je corde le bois chez les autres et porte des messages de par la ville. J'ai pelleté des tonnes de neige. J'ai été waterboy dans la construction de la route. J'ai risqué ma vie en peinturant le mât chez les Anglais. Il s'est arrêté. Pour lui, oui, m'a répondu Fidor, il est vendu. Il s'en va tout à l'heure. Un camion va venir le prendre. Des riches l'ont acheté. Près de l'entrepôt Grand Lac, il m'a confié en haussant les épaules comme un philosophe. Ça s'en vient tranquillement. Qu'est-ce qui s'en vient? Avec son poing, il a frappé devant lui un bon coup, comme dans le front d'un ennemi qui l'attaquait. La brutalité, dit-il, tu vois? Peut-être. Nous ne serons pas toujours des enfants. Comme un mioche, sur l'épaule de son père, entrevoit vaguement la parade qui passe là-bas. Le premier, Fidor me fit entrevoir au loin le spectacle confus, rythmé et dur d'un peuple en marche où je devais entrer un jour. Une sorte de scène inévitable, attirante et cruelle, où l'on va chacun son tour essayer ses forces. Et je connus le pincement dans le ventre, ma première crainte mêlée d'un violent désir de me battre, aussi ma première soif de nouvelles hors de la maison. Il marchait à ma droite, vainqueur, superbe, le torse bombé sous un gilet en loques, jambes nues, éraflées, comme un héros qui revient de loin d'un massacre. J'ai emboîté son pas, et j'ai respiré moi aussi jusqu'au fond, et j'ai branlé les bras en marchant, gauche, droite, nous serions deux amis, il m'apprendrait le nom de toutes les étoiles. Le soir de cette journée, il faisait tiède, la nuit était belle avec une lune baignée dans un nuage. Dans mon lit, enveloppé d'un étrange tourment, je pensais à lui et à la cigogne. Fidor a été mon guide à travers les coulisses merveilleuses où nous avons fait la connaissance des métiers éternels, boucher, boulanger, plombier, cordonnier. La deuxième maille à cette chaîne qui devait être notre amitié fut soudée à la forge du village chez Bérubé, l'homme de fer qui savait des chansons douces.